Et au menu de notre club cet après-midi, un skipper et un spationaute sur le départ, des clés pour se concentrer et un génie des sciences inventeur de l'électricité. Je vous présente mes invités dans un instant. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un appel à la lutte contre la douleur.
Oui, dans une lettre adressée au futur président de la République, des associations de patients et des professionnels de santé rappellent que la lutte contre les douleurs doit continuer. On reçoit le docteur Didier Boissira pour en parler.
Stéphanie Texier réalise ce club qui a été préparé par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités du club en studio avec moi, le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud et l'écrivain Jean-François Robin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis nous serons tout à l'heure en duplex des Sables d'Olonne à 2 jours du départ du Vendée Globe avec le skipper Tanguy Delamotte qui hier a eu une conversation avec le spationaute Thomas Pesquet. Partir seul en mer ou dans l'espace, est-ce que c'est la même chose? C'est ce qu'on verra avec lui dans quelques minutes. Jean-Philippe Lachaud, se concentrer dans un monde de sollicitations permanent comme le nôtre, c'est une véritable gageure. Vous publiez Les petites bulles de l'attention chez Odile Jacob.
Oui, c'est pas très facile. Il y a beaucoup de sollicitations de nos jours. Et les neurosciences, maintenant, nous donnent quand même quelques clés sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'attention, des choses à connaître, des choses simples. Et il n'y avait pas de raison de ne pas les divulguer au plus grand nombre.
Par le biais de la bande dessinée et du dessin en particulier.
Hein, ouais, voilà.
Vous illustrez.
Ouais.
On va en parler avec vous tout à l'heure à l'occasion de la sortie de ce livre donc chez Odile Jacob. Jean-François Robin, vous consacrez un petit livre à André-Marie Ampère. On connaît son nom lié à l'électricité. Serait-ce un génie méconnu?
Oui, il n'est pas très... En fait, tout le monde connaît son nom puisque tout le monde l'a vu sur son compteur électrique.
C'est vrai.
Tout le monde ne sait pas même que c'était un homme. Ça, ouais. Ça a été un homme, ça a été un grand savant français du 19e siècle, à cheval sur le 18 et le 19e siècle.
Ouais.
Mais il fallait un peu en parler parce que ça a été un grand inventeur et ça a été un grand philosophe aussi. Pas seulement un grand savant, un physicien. Et un
c'était chimiste. L'honnête homme, hein, avec vraiment une vision très large des choses.
Il était bonhomme, voilà. Ouais. C'était un homme qui avait qui avait une intelligence supérieure et puis
et très précoce, hein, on va le voir
très précoce,
avec
mais
vous.
Ça c'est quasiment le sujet du livre.
Absolument. Hein. Il s'appelle André-Marie Ampère et on va en discuter avec vous à l'occasion de la sortie de ce livre chez Rive-Neuve Éditions, La naissance d'une vocation. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr et le mot clé l'attaque. On est souvent seul face à ces douleurs physiques, à la maison ou à l'hôpital. On fait le point aujourd'hui à la une de la science sur la prise en charge de la douleur dans notre pays.
Allez, pensez juste à faire le dos rond.
Ça va faire mal, non?
Mais non. Enfin, si vous dites ça, effectivement, ça fera mal. Non, il a pas piqué, là, monsieur. Allez, le dos rond. Il a piqué, là, c'est bon, monsieur, vous avez fait le plus dur.
Voilà, extrait du film Hippocrate qui est sorti en 2014, réalisé par Thomas Lilti. 4 associations de patients et de professionnels de santé adressent cette semaine une lettre au futur président de la République pour que la lutte contre toutes les formes de douleurs continue. Bonjour Didier Boissira.
Bonjour.
Vous êtes chef du service évaluation et traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré, président de la Société française d'études et de traitement de la douleur. D'abord, pourquoi une lettre adressée au futur président de la République? À qui vous allez l'envoyer alors finalement?
Eh bien, on attend que les candidats soient désignés et nous les solliciterons tous pour connaître leur position par rapport aux questions que nous posons dans cette lettre.
Donc ce seront plutôt des lettres adressées aux candidats. Hein.
Aux candidats, oui.
Ouais. Il me semblait qu'en France, on était plutôt de bons élèves en matière de prise en charge de la douleur.
Oui, c'est vrai. Pendant plus d'une dizaine d'années, la France était pionnière mais était considérée comme un très bon élève de la prise en charge de la douleur à partir du début des années 2000. Et une forte volonté, enfin une politique assez volontariste dans le domaine qui a été menée par plusieurs gouvernements finalement et qui a permis de structurer la prise en charge de la douleur en France avec un maillage du territoire, avec un certain nombre de structures spécialisées qui sont des structures pluridisciplinaires, pluriprofessionnels, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui permettent de prendre en charge les patients. Et donc, on a à la fois développé cette structure et puis on a aussi amélioré la formation des médecins et des professionnels de santé qui travaillent dans ces structures. Et tout ça a permis à la France d'être effectivement pionnière et en avance sur beaucoup d'autres pays pendant une petite dizaine d'années. Malheureusement, la situation est en train un petit peu d'évoluer de façon un peu plus défavorable.
Et une fois que les gens sont formés, ça paraît normal que les moyens baissent, j'imagine, ou si le savoir se transmet correctement ?
Tout à fait, mais il faut quand même assurer la pérennité et le maintien de ce qui existe. On ne demande pas qu'il y ait davantage de structures, on demande qu'au moins celles qui existent puissent continuer à exister. Et aujourd'hui, si on s'est permis d'écrire cette lettre, cette tribune, c'est pour faire part de la crainte, des craintes qui assaillent aujourd'hui les spécialistes du domaine et des menaces sur la prise en charge de la douleur en France. Et les associations de patients se sont très volontiers associées à cette démarche.
Où est parue cette tribune ?
Elle est parue dans Le Monde.
Alors, quelles sont les douleurs qui trouvent le moins de solutions aujourd'hui en France ?
Les douleurs qui sont les plus compliquées à prendre en charge, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des douleurs chroniques. Ce sont des douleurs qui n'ont plus rien à voir avec le symptôme, qui sont pas... La douleur est bien entendu un signal d'alarme que tout le monde connaît, mais là on parle de douleur chronique qui n'a plus rien à voir avec ce signal d'alarme. C'est la douleur qui devient une maladie en elle-même, douleur qui va durer, et par définition, une douleur chronique, c'est une douleur qui va durer au minimum 3 mois, qui peut avoir une intensité très importante, et qui va bien sûr avoir un impact majeur sur la vie des patients. La douleur chronique devient une maladie en soi dans le sens où elle devient indépendante de la cause qui l'a initiée. Et donc, même si cette cause est guérie ou a disparu, eh bien, la douleur peut persister malgré tout. Et donc, c'est ces douleurs-là qui posent de très loin les plus grands nombres de problèmes thérapeutiques.
Les chiffres sont étonnants parce que beaucoup de Français sont concernés par la douleur.
Nous avons réalisé il y a quelques années une étude assez exhaustive en France sur un grand panel de représentatifs de la population française et qui indiquait qu'effectivement 20% des Français, 20%, une douzaine de millions de Français, souffrent de douleurs quotidiennes depuis au moins 3 mois avec une intensité d'au moins 4 sur 10. Quand on leur demande de noter, de coter la douleur, 10 étant la douleur la plus forte qu'on puisse imaginer. Donc 4 sur 10, c'est déjà énorme. Donc imaginez-vous vivre tous les jours, pas forcément toute la journée, mais avoir tous les jours une douleur d'environ 4 sur 10.
Quelles sont les solutions proposées pour ces douloureux chroniques ?
Eh bien, il existe de multiples solutions qui peuvent commencer par des médicaments. Un certain nombre de médicaments peuvent être utiles. Malheureusement, dans le cas des douleurs chroniques, beaucoup de traitements médicamenteux ne sont plus efficaces. C'est le cas de beaucoup des traitements antalgiques, antidouleurs que tout le monde connaît, comme le Doliprane, les anti-inflammatoires, des choses comme ça. Et malheureusement, donc chez ces patients, on est souvent obligé d'utiliser d'autres classes de médicaments qu'il faut apprendre à manier, qu'il faut apprendre à connaître. Mais même ces médicaments ne sont pas toujours suffisamment efficaces et on doit combiner cette prise en charge médicamenteuse avec des approches non médicamenteuses qui peuvent dépendre de la neuromodulation, des systèmes de stimulation du cerveau ou des nerfs, par exemple. Des prises en charge qui s'appuient sur la psychothérapie sont très utiles aussi. De même que un certain nombre de médecines complémentaires, hypnose, relaxation, acupuncture, sont également utiles. Et tout ça doit être mis en œuvre au sein d'une structure spécialisée par une équipe pluridisciplinaire. Et c'est ça qu'apportent ces structures de prise en charge de la douleur, c'est la capacité à proposer aux patients cette offre de soins variée et qui va permettre de répondre au mieux à ces douleurs.
Sans mettre en cause la parole des gens qui déclarent avoir des douleurs chroniques, est-ce qu'on est capable scientifiquement de les définir biologiquement, ces douleurs chroniques ?
Ah oui, bien sûr. De toute façon, le diagnostic de douleur chronique repose, comme vous le suggériez, sur les dires du patient. Oui. On croit le patient par définition. Mais on a aujourd'hui un grand nombre d'informations sur les mécanismes qui peuvent sous-tendre ces douleurs. On sait qu'elles vont dépendre de mécanismes de modification au niveau des nerfs, à la périphérie, dans le cerveau, dans la moelle épinière. Tout ça est très étudié. Il y a énormément de recherches dans ce domaine également qui prouvent que cette douleur chronique Elle correspond finalement à une modification de certain nombre de circuits dans le cerveau.
Didier Boissy-Rame, on parlait récemment du placebo justement, Axel, à la ligne de la science, puisque certaines études ont montré que le placebo était très efficace pour lutter contre la douleur chronique modérée. Est-ce que vous êtes intéressé par cette possibilité proposée aux patients ou pas ?
Mais le placebo, on l'utilise, je dirais, tous les jours, hein, puisque dans tout traitement qu'on propose aux patients, il y a une part de l'effet du traitement qui est un effet placebo. Mmh. Et donc, je dirais, nous n'avons rien contre l'effet placebo, puisque nous l'utilisons tous les jours. Mmh. Et comme vous l'indiquiez, l'effet placebo peut être très puissant, beaucoup plus puissant parfois que des médicaments dits actifs. Ouais. Et vous suggérez que c'était sur les douleurs modérées, j'irais même plus loin, même des douleurs sévères peuvent être un placebo.
Et même dans le cas où les patients savent qu'on leur donne un placebo. Hein.
Alors, dans toutes les études cliniques, dans tous les essais thérapeutiques, quand on teste une nouvelle molécule, eh bien, on doit la tester contre un placebo et le patient sait, par définition, nous sommes obligés de l'informer de ça, qu'il a une chance sur deux de recevoir un placebo.
On change de sujet. La douleur, à l'hôpital, elle existe aussi. C'est dans les mains des praticiens. Est-ce qu'il est possible de l'améliorer, de mieux la prendre en charge encore ?
Alors, c'est un domaine dans lequel il y a eu quand même un certain nombre de progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années, que ce soit la prise en charge de la douleur post-opératoire, donc après une intervention chirurgicale, de la douleur de la fin de vie également, dans les maladies cancéreuses notamment, ou encore la douleur liée aux soins, quand on pratique un certain nombre de soins qui peuvent provoquer des douleurs. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été réalisés dans ce domaine, même s'il y a encore du travail à réaliser. En fait.
Merci beaucoup Didier Boissiera. Donc, tribune parue dans Le Monde cette semaine, adressée au futur président de la République. Si vous connaissez déjà le futur président de la République, vous nous appelez, ça peut nous intéresser d'avoir un petit scoop à transmettre à nos auditeurs.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, et bon week-end Axel.
Bon week-end Mathieu.
La microscopie électronique qui gagne en couleur depuis son invention en 1931, le microscope électronique qui permet de voir l'infiniment petit grâce à un faisceau d'électrons était cantonné à la production d'images en noir et blanc. Et bien, des chercheurs californiens apportent cette semaine la preuve qu'en modifiant quelque peu la technique, on peut ajouter de fausses couleurs supplémentaires au cliché grâce à l'ajout de métaux rares durant la préparation des échantillons. Ils obtiennent un effet kaléidoscope qui permet de voir différentes structures biologiques dans différentes couleurs. C'est une nouvelle voie pour l'imagerie médicale de pointe. Un virus de plus qui menace les abeilles, découvert grâce à la collaboration de plusieurs instituts dans le monde. Le virus Moku, qui tire son nom de l'île hawaïenne où il a été découvert, vient d'être séquencé. C'est un flavivirus qui a la capacité de se répandre rapidement chez des populations d'abeilles qui les paralysent progressivement, les rendant parfaitement inaptes. Ça n'est pas le premier virus découvert sur des territoires insulaires. Et les chercheurs rappellent justement l'importance d'éviter que ces nouvelles menaces ne s'échappent des îles où elles sont pour l'instant conscrites. Et puis Alzheimer, une molécule prometteuse et sans effet secondaire. Ce nouveau médicament en cours de validation s'appelle le Virubecesta et son but est de réduire la présence des protéines toxiques bêta-amyloïdes dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Testé avec succès sur un groupe de tests de 32 patients, le médicament va maintenant passer à la phase 3 des tests avant sa mise sur le marché. Il sera administré à une de 3000 personnes. Si tout se passe comme le veulent les chercheurs et que l'efficacité est confirmée, une potentielle commercialisation pourrait arriver d'ici 3 ans. Allez, le club dans un instant.
Just hanging, I can't seem to hold on to. Dang, the people. get to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame from minor league dude. I'd see peace if other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I'd see peace if other people need food. It's complicated keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If it's love, then why the fuck become a pain? I just think that's some bullshit. Okay, I seem inviting, trust me, she's a titan. This week she like him, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You're safe with me, girl.
I can't keep on losing you.
Where the hell you gone? Where you taking this trip to?
Wait,
don't move, don't say to.
I can't keep on losing you.
Where the hell you gone?
Wait,
where the hell you gone?
I can't keep on losing you. Over complications, gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing.
Dang, Mac Miller à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, un skipper et un spationaute sur le départ, des clés pour se concentrer et un génie des sciences autour de l'électricité. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr sur le mot-clé « l'attaque » avec moi en studio, le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud, l'auteur Jean-François Robin. Et nous filons tout de suite au Sables d'Olonne en Vendée où nous attend Tanguy de la Mode. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Plutôt bien.
Écoutez, à deux jours du départ.
Tout se prépare bien et le départ approche.
Voilà, vous serez donc sur la ligne de départ du Vendée Globe sur votre bateau Initiative Cœur. On rappelle bon, allez, rapidement le principe du Vendée Globe, Tanguy de la Motte, c'est de faire le tour du monde en 80 jours, c'est ça?
Ah, le principe en soi de la course, c'est une course autour du monde en solitaire et sans escale. Après, moi, mes objectifs, effectivement, seraient de boucler cette course en 80 jours. Ouais. Qui est un temps atteignable avec mon bateau. Mmh. Et puis, avec le projet Initiative Cœur, de pouvoir sauver 30 enfants grâce au clic des internautes sur notre page Facebook.
Voilà, donc, ça c'est l'autre partie de votre engagement, hein, puisque vous êtes un skipper avec un bateau particulier qui justement aide l'association de chirurgie cardiaque des enfants. Ça c'est mécénat chirurgie cardiaque. C'est un défi aussi supplémentaire pour vous donner l'énergie d'aller encore plus vite?
Oui, ça en fait partie, mais surtout ça fait vraiment partie de mon projet depuis 2004 sur les quatre bateaux que j'ai eu, le premier que j'avais construit moi-même, les différents sponsors qui m'ont accompagné. En fait, on est venu à l'apothéose entre guillemets de cette entraide entre l'association, enfin mes sponsors et l'association, en 2012 en fait, en utilisant le réseau social Facebook pour regrouper un maximum de followers. Et en fait, à chaque nouveau clic, mes sponsors donnent 1 euro à l'association. Mmh. Donc je suis le seul sur le Vendée Globe à aider une association qui, grâce à ma course, récupère de l'argent. C'est vrai que c'est assez motivant quand on a des avaries ou des moments durs dans la course, de se dire c'est moi qui ai choisi mes problèmes en voulant absolument faire le Vendée Globe. Ouais. Et ces petits enfants-là, ils n'ont pas eu de chance depuis le début de leur vie, donc c'est sympa de leur donner un petit coup de pouce pour les sauver, et c'est vraiment génial. Et là, il y a une petite fille qui s'appelle Ardacha qui est ici, qui était sur mon bateau il y a quelques heures et qui sera là de nouveau ce soir. Et c'est vrai que elle est pleine de vie maintenant. Elle était déjà très mignonne en arrivant, mais elle avait un cœur tout malade, alors que là, tout va mieux. Donc c'est vraiment extra de sentir l'action concrète qu'on a pu mener tous ensemble grâce au clic et aux dons du public.
Voilà, donc il vous faut aller le plus loin possible, évidemment, dans cette course. Ça fait combien de milliers de kilomètres alors?
Alors le parcours fait 24 000 milles, ça fait à peu près 40 000 kilomètres.
Ouais.
Et donc effectivement, on traverse les trois océans du globe. Donc on fait l'Atlantique du haut en bas, l'océan Indien, et on enchaîne sur le Pacifique, et ensuite on remonte tout l'océan Atlantique. Donc on passe par des zones tropicales où il fait chaud, puis ensuite des zones autour de l'Antarctique où il fait plutôt froid pendant un bon tiers de la course.
Ouais, il y a toujours le record de François Gabart qui est à battre, 78 jours. Est-ce que quand on est skipper comme vous, on a ça en tête en permanence ou pas?
Alors oui, forcément. Tout le monde va essayer surtout d'abord de gagner la course, de la finir pour la gagner. Mmh. Moi, je figure pas parmi les favoris de la course, mais vu le bateau, en fait, l'âge du bateau que j'ai, ça dépend pas de l'âge du capitaine, ça dépend de l'âge du bateau. Et du coup, un beau score sur mon bateau, ça serait de faire le Tour du Monde en 80 jours. Donc c'est assez proche du record de François. On a beaucoup travaillé, beaucoup progressé sur le bateau depuis 3 ans qu'on l'a, grâce à toute mon équipe technique, d'ailleurs, que je salue au passage, parce que eux, ils sont en train de finir leur Vendée Globe, et moi, je vais bientôt commencer le mien. Donc ils ont vraiment super bien bossé. Il y a beaucoup de monde qui travaille toute l'année sur le bateau, et puis après, je pars tout seul. Donc effectivement, 80 jours, je pense pas que au record, je pense à mener mon bateau au niveau auquel je suis capable de le mener et au niveau que mes entraînements m'ont permis d'atteindre.
Tanguy de la Motte, j'ai à mes côtés dans ce studio un neurobiologiste qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui s'intéresse beaucoup à votre cerveau. Je crois que vous êtes très intrigué par ce qui se passe dans la tête d'un skipper, Jean-Philippe Lachaud.
Oui, à plusieurs titres. J'aurais des millions de questions à vous poser sur la manière dont vous utilisez votre attention. Pendant ces courses-là, en fonction des moments. Mais j'avais envie de vous poser une question piège là qui me venait. C'était imaginez là demain, je veux prendre un bateau et j'ai jamais fait de voile et je veux faire le Vendée Globe. Est-ce que vous avez des trucs à me donner?
Vous êtes fou sur deux, non?
se préparer à des surprises et puis avancer un pied devant l'autre, en fait, je dirais. Parce que le chemin est long et donc effectivement.
Non, mais ce serait pas raisonnable, Tanguy de la Motte là.
Ah, mais je pense que je dirais pas que tout le monde est capable, mais avec un peu de préparation, ça se fait. Donc il y a des gens qui traversent l'Atlantique. Là, effectivement, on fait le Vendée Globe en course, donc c'est pas la même chose de faire une croisière ou un voyage, pourquoi pas familial, pas forcément en solitaire sur des bateaux aussi gros et aussi technologiques, mais dans la tête, c'est faisable si on s'y prépare, comme beaucoup d'autres choses, je pense.
Tanguy de la Motte, hier vous avez échangé avec un homme qui va bientôt tutoyer les étoiles. Il s'agit du passionnant Thomas Pesquet, qui va s'envoler le 17 novembre de Baïkonour. Thomas Pesquet se trouve justement en ce moment en quarantaine. Vous avez pu tracer ensemble quelques parallèles autour de vos expériences d'aventurier. On va vous écouter. C'est un échange qui a été enregistré hier par Skype, grâce à Jérôme Val, qui a pu recueillir vos propos. Donc on vous écoute avec Thomas Pesquet et on revient ensemble juste après.
Salut Tanguy.
Salut Thomas.
Ça va et toi?
Bah ouais, pas mal.
Eh ben écoute, je suis au Kazakhstan, c'est tout au sud. On a testé notre Soyuz, celui avec lequel on va partir, vraiment le nôtre, c'est la première fois que je le voyais, pour du vrai, c'est pas un simulateur. Et voilà, tout marchait bien, quoi. Du coup, il faut le retester encore une fois juste avant le départ, ça sera 2 jours avant le départ. Ensuite, il est accroché sur la fusée, mis sous la coiffe, la fusée est sortie, ils font les pleins du Soyuz lui-même, de la fusée. Et puis tout ça, ça va nous emmener tranquillement vers le 17 et on décolle. Bon, et toi alors, t'es dans les starting blocks aussi?
Ouais, carrément. Ouais, ça se compte en heures maintenant, sur les doigts de la main, les jours. Donc mais apparemment, c'est quand même un peu différent parce que nous, on est quand même en plein bain de foule là, tu vois. On voit du monde.
C'est vrai, c'est l'opposé, on est complètement isolé, on est coupé du monde. Tu vois, même Skype, je suis étonné que ça marche bien parce que la connexion est vraiment pas géniale, on est vraiment au milieu de nulle part.
Mais c'est vrai que nous, là, tous les jours, là, il y a du monde sur le village, on a des visites dans le bateau, donc tu vois, les gens qui rentrent dans le bateau, je fais des autographes une heure par jour, c'est complètement un peu l'opposé.
faut pas qu'ils te mettent des autocollants dans le bateau, que quelqu'un pique un petit souvenir, tu sais. Voilà.
Quoi, non, mais tout le monde, c'est assez marrant parce que tout le monde nous file un petit truc à emmener, tu vois, donc des peluches, des machins, donc je leur dis c'est sympa, j'en ai déjà pas mal.
Bon, mais t'arrives quand même à te concentrer un peu là, je veux dire, techniquement, t'es prêt, t'as des réglages à faire encore ou
Non, ça va, vraiment... techniquement, le bateau il est tout prêt, en plus il fait hyper beau là, il fait frais le soir, mais. On a l'impression qu'on est au printemps, donc c'est sympa.
Ouais, j'ai vu des photos, j'ai des copains qui sont en Bretagne ou qui étaient dans le coin, où j'ai vu tes photos à toi, et je suis super jaloux parce que nous, écoute, il fait un temps affreux, il fait froid, on est misérable et tout, mais bon, non, c'est pas grave. Donc la planète, je veux dire, dans la station, il fait 25 degrés tout le temps, il n'y a pas de vent. C'est limite ennuyeux au bout d'un moment.
Et toi, t'as renvoyé des trucs dernièrement, ou c'est parce que t'es ça qui tu m'as dit, t'étais parti il y a 6 mois ou un truc comme ça?
J'ai envoyé la plus grande partie de mes affaires il y a un moment. Là, récemment, alors, tu sais, il y a des véhicules cargo qui ravitaillent la station assez régulièrement. Il y en a un qui est arrivé récemment où il avait pas mal d'affaires à moi, dont des cadeaux, en fait, des choses qu'on prépare à mes proches, notamment, je pense, des cadeaux de Noël, parce que moi, je vais passer Noël là-haut et mon anniversaire aussi. Puis voilà, donc là, il me reste juste j'ai 1,5 kg que je peux emmener avec moi dans le Soyuz. Donc 1,5 kg, c'est pas grand, hein, si tu veux, c'est comme ça. Ouais. Et j'ai mis des trucs un peu de dernière minute. Mais...
Moi, j'ai pesé mon sac de fringues, c'est 17 et 16 kilos.
17 et 16 kilomètres, ça va pour...
Ouais, mais comme tu dis, t'as une atmosphère contrôlée, toi, là-haut.
Ouais, nous, normalement, on
n'est pas... Nous, on passe par les tropiques et puis l'hiver derrière, donc il faut un peu de tout, quoi.
De toute façon, moi, je pars pas en solitaire. Hein. La différence, c'est deux coéquipiers qui sont super expérimentés. Donc, c'est vrai que ça répartit la pression. Je sais pas si on peut dire la pression, mais on va dire les efforts sur trois personnes.
Ouais,
donc, moi, comme je suis le plus jeune, ils y sont allés tous les deux, si tu veux. Donc,
ils sont déjà allés une fois chacun.
Ils sont déjà allés Peggy, elle est déjà allée deux fois et Oleg une fois.
D'accord.
Donc, tu vois, on fait le grand chelem, ça fera 3-2-1 une fois là-haut.
Ouais.
Et eux, ils connaissent tout. Par cœur, si tu veux, ils sont expérimentés, c'est des vétérans.
Et du coup, là, t'es rentré dans la quarantaine.
Oui, alors là, quarantaine médicale. Vous ne faites pas ça? Vous n'avez pas des mesures médicales avant de partir pour ne pas tomber malade?
Moi, j'ai fait des mesures médicales. Donc, j'ai fait une impédance, j'ai fait deux, trois petits tests. Voilà, mais c'est pas... en fait, toi, pendant la mission, tu fais de la recherche sur les muscles, comme tu m'as expliqué. Donc, y a besoin de savoir ton état de départ. Mais nous, à part le poids et certains petits critères assez basiques... là-dessus.
Ben en fait, c'est un peu étrange. Il y a une espèce de complexe un peu hôtel où il y a deux trois bâtiments, il y a l'endroit où on mange, on a la salle de sport, et en fait l'accès à ça est contrôlé. Il y a toute l'équipe en gros qui est en quarantaine avec nous. Il y a sans mauvaise blague, il y a une quarantaine de personnes en quarantaine avec nous.
D'accord.
Et il y a nos instructeurs, parce que je m'entraîne encore, notamment au pilotage manuel. Ça, jusqu'au dernier moment, il faut que tu l'aies dans les mains avant de partir. On fait du tabouret tournant et de la table qui s'incline là, pour s'habituer aux fluides qui se répartissent différemment, aux déséquilibres, aux vertiges, aux désorientations. Bon. Donc tu vois, toute la journée, on a un programme un peu comme ça. Et dès qu'on arrive quelque part, par exemple hier, quand on est allé à notre Soyouz, c'est tout le monde a les masques, tu vois, on a l'impression d'être un peu contaminé ou je sais pas quoi dans un film avec un virus qui va anéantir la planète, parce que ça fait un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est très nautique au final, hein. Parfois, ça ressemble, dans l'aéronautique, il y a nautique. Parfois, ce qu'on fait, ça ressemble plus à de la navigation au long cours ou à du sous-marin que vraiment à de l'aviation. Il y a des challenges techniques, évidemment, on est dans un environnement qui est extrême. La mer pour Tanguy, l'espace pour nous, l'homme n'est pas fait naturellement pour évoluer là-dedans, donc il a besoin de machines pour le protéger, il a besoin de technologie, donc on a ce rapport-là avec nos machines, avec nos vaisseaux. Il y a le côté psychologique, on s'éloigne de la famille, des amis, on va être seul, tu dois te débrouiller tout seul, quoi. Personne ne va venir.
Pour vous, c'est complètement, personne ne peut absolument venir, nous on a une micro-chance qu'il y ait quelqu'un qui essaye de se déplacer, mais ben, c'est vrai que cette idée de rapprochement, elle est assez rigolote, parce que en plus Thomas aime la voile, moi avant de faire de la voile, j'aurais aimé être pilote d'essai, donc en fait on a chacun un peu raté la carrière de l'autre, donc c'est marrant de pouvoir discuter comme ça. Et moi, je trouve que c'est un autre sport extrême qui est peut-être un peu plus scientifique, mais par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la santé, on va dire, de Thomas, il m'a bluffé en me disant ce qui allait lui arriver. Donc nous, on n'est pas touchés de la même manière. Il met une combinaison pour pas grandir trop pendant son séjour. Nous, on est fatigués, mais ça n'a pas un impact sur la vie à long terme. Donc ça, c'est assez fort, et c'est des choses que je découvre, et c'est sympa de pouvoir les partager avec tous ceux qui vont suivre nos deux aventures.
Ok, super. Merci Tanguy.
Ciao Thomas.
Voilà, très bel échange croisé entre vous, Tanguy de la Motte, skipper, et le spationaute Thomas Pesquet, donc depuis Baïkonour. Merci à Jérôme Ballin de France Inter qui a permis à ce son d'exister. Est-ce que vous avez déjà vu la Station Spatiale Internationale depuis la mer, Tanguy de la Motte? Parce qu'on peut la voir parfois dans le ciel, hein.
Bien la regarder, mais que c'était possible, mais je peux pas en être sûr, même si j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce qu'on peut penser être des satellites
mais,
du coup voilà, donc effectivement eux ils vont très très vite quand même, donc ils font le tour du monde en une heure et demie plus ou moins,
ça va vite,
j'ai l'impression que ce que j'ai vu allait un peu plus lentement que ça, mais bon, le ciel est tellement grand que c'est dur de se rendre compte si c'est 28 000 km/h ou autre chose, parce
vrai.
Que c'est quand même assez effarant. Je sais pas, mais en tout cas j'ai eu la chance d'aller à Cologne accompagné pour rencontrer Thomas la deuxième fois où je l'ai vu, et je suis rentré dans le module d'entraînement de la partie européenne de la station spatiale, donc c'est assez rigolo d'avoir pu j'étais pas en apesanteur mais effectivement c'était assez rigolo de voir quel allait être son
environnement,
son bureau et son lieu de vie et son environnement pendant plus de 6 mois au final, parce que du coup il va rester plus de 6 mois en l'air,
c'est vrai. Allez, encore une question pour terminer de notre neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est tout à l'heure, vous êtes pour laisser désarçonner par ma question qui était un peu bizarre. Comment est-ce que du jour au lendemain, on peut devenir un bon voileux? Vous auriez pu me dire, bah, mon garçon, tu vas t'acheter un ciré des bottes et puis tu vas t'inscrire au Glénan ou pour apprendre un petit peu comment fonctionnent les vents, les courants. Et en fait, la raison pour laquelle je posais cette question, c'est que parfois on me demande s'il y a des trucs ou des astuces pour être concentré, pour maîtriser son attention du jour au lendemain. Et en fait, je réponds la même chose. C'est-à-dire que l'attention, elle est balayée dans tous les sens par des forces. Un peu comme voilà, il y a des forces qui bousculent le bateau, il y a des forces qui bousculent l'attention, et la première chose à faire c'est de les comprendre, voir comment elles fonctionnent, et ensuite de les observer pour apprendre à les maîtriser au fur et à mesure. Et c'est un petit peu aussi la clé d'une maîtrise de son attention.
Ouais, Tanguy de la Motte, c'est vraiment quelque chose d'important, la maîtrise de la concentration à bord d'un bateau, elle est quasi permanente ou pas, où il y a des moments de relâche?
Bah, sur 80 jours, on peut pas être concentré à 100% en permanence. Ça, je sais pas s'il y a un être humain qui est capable, mais en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Mais effectivement, il y a des moments plus importants. Donc là, par exemple, sur le départ, on enchaîne deux phases complètement opposées. C'est-à-dire qu'on sort du bain de foule, on traverse, on remonte ce chenal avec les digues à moins de 5 mètres de notre bateau, avec des centaines de personnes qui sont amassées là, qui nous regardent droit dans les yeux et qui nous envoient toute leur bonne énergie. Et ensuite, en 10 minutes, il y a l'équipe qui descend du bateau et on se retrouve en solitaire avec le challenge en face de nous de faire le tour du monde sans s'arrêter. Et donc là, faut vraiment réussir à faire un concentré de concentration immédiat. Donc profiter d'un côté de cette remontée de chenal avec les échanges d'énergie, comme je disais, qui sont assez incroyables, qui m'avaient vraiment submergé il y a 4 ans. Et derrière, être efficace sur... c'est vraiment plus mon métier, du coup, d'être là au bon moment et de ne pas faire d'erreur sur le moment, en fait, assez important de la course. Parce que derrière... Bon, on a un peu plus d'espace, on rentre dans notre bulle de solitaire et puis les jours s'égrènent et on commence à être dans notre cellule personnelle. Mais voilà, c'est vrai que le départ, c'est vraiment un gros contraste et c'est vrai que de réussir à rassembler toutes nos énergies pour transformer ça en concentration assez rapidement, c'est très important.
Bon, donc a priori, vous aurez au moins 80 jours pour le faire. Départ dimanche des Sables d'Olonne avec le public, évidemment, qui, comme toujours, sera très très nombreux pour vous souhaiter un bon voyage. Et merci beaucoup, Tanguy de la Motte, d'être passé par le club de la Tête au Carré cet après-midi. Et ce bateau donc aux couleurs d'Initiative Cœur et ce mécénat chirurgie cardiaque pour tous ceux qui souhaitent vous soutenir également dans votre démarche. Merci à vous, à bientôt.
Merci, bientôt. Puis je vous dis à bientôt. Et puis suivez les aventures de tous les autres skippers sur le Vendée Globe.
Absolument. Merci, Tanguy de la Motte. Allez, dans un instant, nous parlons d'un personnage, un génie de la science assez méconnu. Il s'appelle Ampère. Eh oui.
Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a régalé ses convives. Sur la terrasse, sous les cimes, où règne le diable à sa machine. Sur la terrasse, sous les cimes, mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer, c'est nos vies. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, après la vie de chez le sublime. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a une nouvelle famille. Sur la terrasse, sous les cimes, où le tout moderne s'agglutine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il ouvre une nouvelle usine. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument.
Interroge la jument, vous avez reconnu la voix de Jean-Louis Murat.
La Tête au Carré.
Le club.
Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Pas tous, seulement les plus basiques. La télévision. Le téléphone. La radio.
Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Voilà, la télévision, la radio, le téléphone, ben on doit au moins ça en père quand même. Hein. C'est l'objet d'un livre qui lui rend hommage, En père, naissance d'une vocation, que vous signez Jean-François Robin chez Rive-Neuve Éditions. Alors d'abord, vous avez travaillé comme directeur de la photographie sur de nombreux films, hein. Claude Sautet, Jacques Demy, Jean-Jacques Benex. Vous avez commencé par des études de physique et après Jean-Sébastien Bach, vous vous intéressez donc à André-Marie Ampère, un génie donc qui aura donné naissance à l'électricité. Pourquoi Ampère? Comment est-ce que vous avez croisé sa route?
Ben, j'ai croisé sa route parce que je m'intéressais aux enfants prodiges, en quelque sorte, comme Bach l'était d'ailleurs. Et Ampère a été un de ces enfants prodiges, puisque je le dis dans le livre, à 4 ans, il était, il avait des petits grains de blé, et puis il les rangeait sur un tableau, et il commençait à faire des multiplications, et il dit à son père, il avait 5 ans, ça y est, je peux multiplier les choses entre elles par 10, et je sais diviser. Je sais diviser jusqu'à je ne sais pas combien, et un peu plus tard, quand son père lui raconte l'histoire de cette, je ne sais plus, c'était en Orient, qui lui raconte cette histoire du roi d'Orient qui avait découvert les échecs grâce à un de ses sages, et il lui avait dit, je vais te récompenser, qu'est-ce que je peux faire? Et le sage lui avait dit, c'est très simple, vous me donnez, comme c'est un échiquier, vous mettez un grain sur la première case, vous mettez 2 grains sur la deuxième, vous mettez 4 grains sur la troisième, vous mettez 8 grains sur, etc., etc., etc. Et en père, il avait 6 ans, et il a calculé combien de grains ça faisait. Et ça faisait plus d'un milliard de grains. Donc, ce qui était absolument impossible à rassembler dans la vie d'un homme.
À 6 ans, il lit l'encyclopédie Diderot d'Alembert, il l'apprend par cœur.
Et surtout, il apprend à lire tout seul. Ouais. Il apprend à lire tout seul parce qu'il faisait de la botanique. Il herborisait beaucoup. Ouais. Son père lui avait appris à herboriser. Alors, il voyait des oiseaux et des plantes et des fleurs. Et le soir, il rentrait chez lui et il se plongeait dans l'histoire naturelle de Buffon. Il voyait les images des fleurs et des oiseaux qu'il avait vus dans la journée. Et il regardait comment c'était écrit en dessous. Et peu à peu, son père lui avait appris l'alphabet quand même. Mais peu à peu, il a réussi à synthétiser tout ça et il a appris à lire absolument tout seul.
Ouais. Son père qui était un disciple de Jean-Jacques Rousseau, hein, et donc il a été inspiré par lui pour son éducation.
Et non seulement c'était un disciple de Jean-Jacques Rousseau, mais il a été inspiré mais vraiment à fond par lui, puisque il a décidé que ses enfants n'auraient pas de professeur. Et qu'ils devaient apprendre par eux-mêmes. Hein, donc, c'est, ils n'ont jamais eu de professeur, ils ne sont jamais allés à l'école. Et en père, il a appris à lire tout seul, il a appris à compter tout seul. Et puis ça c'est, ils ont vu très vite, ses parents ont vu très vite que ça, qu'il y avait quelque chose en plus, quoi. Donc, qu'il était excessivement très très doué. Et à preuve qu'à 13 ans, par exemple, quand il a eu 13 ans, il avait déjà lu pas mal de bouquins de mathématiques, parce que c'était les mathématiques qui l'intéressaient surtout au début. Il avait lu beaucoup de livres de mathématiques, et non seulement ça, mais à 13 ans, il avait découvert le traité des coniques et il avait fait une communication carrément à l'Académie des sciences à 13 ans sur la résolution d'un arc de tangente.
Voilà, donc les mathématiques, la physique, la philosophie, donc c'est vraiment l'honnête homme avec cet éventail extrêmement large.
Hein. C'est l'homme complet, c'est l'homme éclairé du 18e.
Ouais. Alors d'ailleurs, sa mère s'inquiète, hein, la première fois qu'il tombe amoureux, justement, parce qu'il était assez agité, visiblement, et il délaisse un petit peu les mathématiques, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais visiblement, vous brossez le portrait d'un être extrêmement sensible, par le biais de lettres que vous imaginez écrites par son père, par sa mère, par sa fiancée.
Ben, c'est-à-dire que, en fait, il était, donc c'était déjà un grand mathématicien, mais il s'intéressait à tout. Et ça, c'était l'influence de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui savait par cœur, hein. Mmh. Il la savait par cœur. À 12 ans, il savait l'encyclopédie par cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 40 ans, il la savait toujours par cœur. Donc, il avait une mémoire absolument phénoménale. Et donc, par le biais de cette encyclopédie, non seulement il s'intéressait aux sciences, aux mathématiques, mais il s'intéressait aussi à la poésie. Et il avait, par exemple, il avait appris le latin. Il savait parler latin, il lisait le latin dans le texte, et non seulement ça, mais il avait découvert que Virgile, il avait eu une traduction d'un texte d'Homère, qui lui-même avait traduit un texte de Letace, qui était un poème toscan de l'époque. Et donc, il a étudié ça et il s'est retrouvé à parler 4 langues. Ouais. Il parlait 4 langues et il avait 14 ans.
Ouais. Et ça ne lui suffit pas parce qu'il va inventer le vocabulaire de l'électricité aussi. Hein.
Ah, mais ça, ce sera plus tard. Ouais. Parce qu'il va découvrir, en fait, il va d'abord s'intéresser aux mathématiques. Après, il va s'intéresser carrément à la philosophie. Hein. Il sera professeur de philosophie à la Sorbonne. Et puis après, il va s'intéresser à la physique. Et là, il va découvrir l'électricité. En fait, c'est son père qui lui avait fait qui lui avait posé des jalons, parce qu'il y avait une espèce de docteur qui s'appelait le docteur Mesmer à Lyon, et qui soignait les gens avec des plaques de métal électrisées dans un grand bassin, et il disait le fluide traverse et peut guérir les gens.
C'était pas dangereux du tout, d'ailleurs.
C'était pas dangereux, parce que l'électricité à l'époque, c'était pas de la haute tension. Le mot tension ayant été inventé par Ampère, d'ailleurs.
Ouais. Jean-Philippe Lachaud, alors, ben vous qui êtes lyonnais, vous connaissez la maison natale d'Ampère.
Oui, j'y suis passé.
On peut la visiter, c'est un musée. Hein.
Ouais, elle est très belle, à Polémieux, là, dans les Monts d'Or. Pour tous ceux qui passent dans le coin, je le conseille.
Ouais. Oui, il y a 15 kilomètres de Lyon. Ouais. Et c'est une très belle maison, et c'est la maison justement où Ampère a passé toute son enfance. Ouais. L'enfance qu'il raconte dans le livre, c'est à cet endroit.
Donc ce sont les germes de son génie au fond, hein. C'est le but d'ailleurs de cette collection, c'est de voir comment est née cette vocation et comment justement plus tard, parce que vous arrêtez au moment où Ampère devient vraiment le grand scientifique, donc on est là, on est un petit peu frustré, mais c'est vraiment les origines de son travail.
Hein. Oui, c'est cette espèce d'ensemble de déclics, si on peut dire, qui ont provoqué toutes ses vocations, parce que à la fois sa vocation de mathématicien, sa vocation de physicien et sa vocation de poète aussi et de philosophe. Mmh. Toutes ces vocations rassemblées ont fait ce qu'il est devenu.
Ouais, dans un contexte évidemment de la Révolution aussi, hein, où son père a été guillotiné, ça a été un épisode majeur dans sa vie. Hein.
Ça c'était vraiment intéressant parce que il avait 14 ans en 1789, et il a vécu toute la révolution de l'intérieur, parce que son père était très concerné, parce que son père a été nommé. Il était juge des prud'hommes avant, et en 90, il a été nommé juge de paix. Et d'un seul coup, il a eu à juger des gens qui étaient très très impliqués dans la révolution, et plus tard impliqués dans la terreur. Et puis, au bout d'un moment, il a plongé aussi. Alors que lui, c'était un homme excessivement intègre, mais il a eu à juger des gens qui ne l'étaient pas. Et donc, il a été rattrapé par ça, et il a été carrément guillotiné. Ouais. Et ça a été un énorme traumatisme pour son fils, pour Ampère, qui a arrêté quasiment de parler pendant un an. Après la mort après que son père ait été guillotiné.
Et donc 1881, là on fait un bond en avant, le Congrès international des électriciens donnait le nom d'ampère à l'unité d'intensité du courant électrique. Donc on ne regardera plus jamais notre boîtier électrique de la même manière grâce à vous, Jean-François Robin. Et donc la naissance d'une vocation, hein, c'est vraiment le thème de cette collection chez Rive-Neuve Éditions. C'est Ampère, et vous restez avec nous, on va parler de concentration dans un instant.
Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She had tanned the color of her hair.
Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
She's not there, The Zombies, dans notre club des têtes au carré. Jean-Philippe Lachaud est avec nous également pour nous parler de ces petites bulles de l'attention, se concentrer dans un monde de distraction. Et c'est vrai qu'on a besoin de conseils, hein, parce qu'on a l'impression d'être sollicité de toutes parts. C'est chez Odile Jacob dans une nouvelle collection, Science Illustrée. Je ne savais pas que vous dessiniez, Jean-Philippe Lachaud.
Ben voyez.
Vous faites ça alors, quand vous avez le temps?
Ben, un directeur de recherche, ça fait aussi des petits Mickey.
C'est vrai. Ouais. Et c'est le principe de cette collection aussi. Hein. C'est à moitié une bande dessinée, en tous les cas.
Oui.
À qui ça s'adresse d'ailleurs, cet ouvrage?
Bah, ça s'adresse un peu à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, on peut se dire que c'est pour les enfants. Parce que ça nous sert comme support pour enseigner l'attention dans les écoles.
Mmh.
Puis en fait, les ados s'y retrouvent aussi. Puis finalement, j'ai vu des adultes qui m'ont dit « Ah mais tu te donnes la moi parce que les 360 pages du
livre précédent, c'est ça. »
Voilà. Donc je crois que ça s'adresse à tout le monde.
Est-ce que c'est un problème, je ne vais pas dire quand même de santé publique, mais ce problème justement de l'attention, de la concentration aujourd'hui qui nous parasite en permanence, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, qui est très sérieux, non?
C'est un enjeu majeur. Hein.
Ouais.
En fait, si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas mémoriser.
Ouais.
Pas de mémoire.
Un bon génie comme Ampère, justement, exactement. C'est un homme qui est capable de se concentrer plus que les autres.
Ben, hein. Vous avez dit, j'ai entendu un moment, vous avez dit qu'il se plongeait dans ce qu'il apprenait.
Ouais.
Donc il y a cette notion de plongée, vraiment de connexion à l'objet d'attention. Sans cette connexion, il n'y a rien, on est dans un monde totalement inintelligible.
Ouais.
Donc à partir de là, l'éducation de l'attention, c'est un enjeu absolument majeur et je suis un petit peu surpris que ce ne soit pas si présent que ça.
C'est vrai,
ouais. En fait, on n'enseigne pas l'attention. Mmh. Et en tant que neurobiologiste, on pourrait dire, bah, qu'est-ce qu'il fait, directeur de recherche, à dessiner ces petits neurones avec des couronnes? Mais en fait, c'est ma responsabilité d'essayer d'expliquer ce qu'on sait du cerveau pour aider justement tout le monde, même les plus jeunes, à comprendre comment fonctionne l'attention.
Non seulement on ne nous apprend pas à nous concentrer, mais on nous sollicite de plus en plus aussi, hein, comme si on était multitâche. Or, vous rappelez que c'est très compliqué, que ça va à l'encontre de notre nature profonde, au fond.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
On n'est pas capable de faire 10 000 choses en même temps.
Non, une chose à la fois, eh bien, mais on est toujours dans cette espèce de mythe. Alors, il y a le double mythe, il y a James Bond qui arrive à faire 15 trucs en même temps.
Oui, comme mais si sommes-nous des James Bond?
Non, on n'est pas du tout des James Bond. Et puis aussi de la volonté toute puissante. Si je veux me concentrer, j'y arrive. C'est qu'une question de volonté ou de motivation. Alors du coup, celui qui ne se concentre pas, c'est qui ne veut pas, c'est le flemmard. Mais en fait, on parlait tout à l'heure de la mer, de ce milieu un petit peu mouvant de ses forces. Le cerveau, c'est des centaines de milliards de neurones connectés les uns aux autres. Tout ça est agité par une vie. Ça bouge, ça bouge l'esprit, ça bouge l'attention. Donc il y a toutes ces forces à dompter, ce qui n'est pas du tout évident.
Ouais. Vous travaillez beaucoup avec les enseignants, justement?
Ouais,
qui sont de plus en plus confrontés à ce problème de perturbation au fond des élèves.
Ah oui, il y a une grosse demande. Hein. Il y a une demande de la part des enseignants qui un peu se tourne vers les neurosciences en disant « Bon, donnez-nous des remèdes miracles ». C'est un petit peu pour ça que je m'amusais à poser cette question tout à l'heure à Tanguy. Je veux un remède miracle, je veux arriver demain.
Pouvoir skipper, moi aussi. Ouais.
Exactement, dès demain, je veux un truc.
Donc tenir la barre de sa concentration, hein, c'est aussi un enjeu majeur.
Ça s'apprend et ça s'apprend sur la durée. C'est-à-dire que c'est plus une habitude à prendre.
Ouais. Et c'est aussi une bonne connaissance du cerveau, alors?
Bah, disons que ça aide, hein. ça aide à développer ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire comprendre les mécanismes qui en soi nous amènent à réagir de telle ou telle façon dans le cerveau. Savoir ce qui se passe en soi quand on est distrait et dire « Ah oui, tiens, il se passe ça, mais finalement c'est normal. C'est normal d'être distrait, mais je peux peut-être y faire quelque chose. »
Vous avez des personnages récurrents dans cette BD, justement?
Oui, alors...
On en parlait de tout ça.
Bah, les petits neurones, alors bon, on pourrait croire que les neurones ont des couleurs, donc je préviens d'emblée qu'ils n'ont pas de couleurs, mais ils n'ont pas de couronne non plus.
Mm-hmm.
Ces petits neurones avec des espèces de trompes, on a mini-moi et maxi-moi aussi.
Oui, qui sont-ils?
Bah, ils incarnent en fait deux façons d'être, de mode cognitif. Un où on est plus dans la réflexion, à saucissonner ce qu'on a à faire en petite mission simple. Ça, c'est le maxi-moi qui est habillé en bleu, le grand mage.
Oui.
Lui, il ne fait rien, hein, il ne fait que réfléchir. Et ensuite, il confie à mini-moi, c'est son petit Ted habillé en vert. Lui, c'est une mission à la fois,
très simple, sur des durées courtes, mais ça aide en fait l'enfant, et puis même l'adulte, hein, à adopter
je vous le confirme.
Ces deux postures. Voilà, ouais. Je suis très au clair sur ce que j'ai l'intention de faire, sur ce à quoi je dois faire attention, et ensuite je le fais.
Ouais. Alors justement, c'est ça la concentration avant tout ? C'est de se fixer sur un objectif ?
Disons que ça aide, c'est-à-dire que plus votre intention est claire, plus vous êtes au clair sur ce que vous cherchez réellement à faire à un moment donné, pendant les minutes qui viennent, plus vous arriverez à vous concentrer. Parce que sinon, en fait, votre cerveau, enfin la partie de votre cerveau dans le système attentionnel qui est en charge de filtrer, d'identifier ce qui est pertinent et ce qui n'est pas pertinent, ce qui sert et ce qui ne sert pas, est un petit peu perdu si vous cherchez à faire 15 trucs en même temps. Si vous cherchez à faire une chose bien identifiée, alors c'est beaucoup plus simple pour lui.
Ouais. Et ça fatigue beaucoup le cerveau aussi, la dispersion permanente, non ?
Oui, parce qu'on est tiraillé.
Il y a une sorte de surchauffe. Quels sont les symptômes justement qui découlent d'un état de déconcentration ?
Il y a d'abord une forme de stress, parce qu'en fait vous êtes tendu entre les différentes choses que vous essayez de faire. C'est-à-dire que dès que vous essayez de faire, vous faites plus la tâche A, disons, vous quittez la tâche B, vous avez des petits signaux d'erreur dans votre cerveau qui disent « Ah là, c'est moins bien là, tu t'éloignes de ce que tu dois faire ». Ça surcharge la mémoire de travail, parce qu'il faut aussi, faut toujours garder en tête plein de choses pour arriver à faire ses mails, répondre au téléphone, suivre un petit peu ce qui se passe à l'écran. Il faut quand même garder ça en tête, donc ça crée de la fatigue. Donc à la fin, on est épuisé, puis on est stressé, puis on n'est pas très content de soi aussi.
Ouais. Alors les neurones chefs, qui sont-ils exactement ? Il y a une hiérarchie dans le neurone ?
Alors les neurones chefs, en fait, c'est un peu une simplification, mais disons qu'ils représentent cette partie située plus à l'avant du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Vous avez un système dit exécutif qui est en charge de maintenir votre intention à un moment donné. Qu'est-ce que je cherche à faire ? Et donc de faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Si par exemple, là tout de suite, j'ai l'idée de me lever pour aller chercher un café, et c'est cette partie antérieure de mon cerveau va me dire non, c'est pas une bonne idée. Ça ne se fait pas dans ce contexte-là.
Jean-François Robin.
Oui, mais est-ce que par exemple, vous parlez des neurones chefs, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'un grand savant, il a plus de neurones chefs qu'un personnage ordinaire ?
Ah ah.
On peut dire que sans ces neurones chefs, alors un neurone chef, je tiens tout de suite à dire, ça n'existe pas dans le vocabulaire scientifique, c'est moi qui l'ai inventé. Donc n'allez pas parler de neurones chefs en dehors de ce contexte-là. Mais disons que sans ce système de stabilisation de l'attention sur ce que vous cherchez à faire, sur ce que vraiment vous avez décidé de faire, il n'y a pas d'attention volontaire. Et donc, il n'y a pas d'apprentissage, on ne peut rien faire. En fait, l'attention est complètement évaporée, passe d'une chose à l'autre sans arrêt. Donc, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas ça.
Quand on part dans la Lune, justement, Jean-Philippe Lachaud, là, c'est ces petits moments qu'on s'accorde à soi, justement. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire une pause et de permettre au cerveau de remettre les choses en place dans ce flot de sollicitations ?
Si, tout à fait. Justement, l'idée, ce n'est pas d'être concentré tout le temps. C'est d'être concentré, d'avoir la possibilité de l'être quand on en a besoin. Ça, c'est essentiel. Il ne s'agit pas d'imposer à tout le monde d'être hyper concentré. Ces petits moments de flottement où on se met à penser à autre chose, il y a des études qui montrent qu'en fait, ils sont utiles pour aller rejouer ce qu'on a vécu juste avant, consolider l'apprentissage. Donc, ils ont une fonction réelle.
Et donc, on peut s'éduquer soi-même plus concentré.
Absolument, ouais. De la même façon qu'on peut s'éduquer soi-même, on peut apprendre à naviguer sur un bateau et faire le tour du monde en 78 jours.
Donc vous nous donnez des conseils pratiques,
Ouais, c'est ça.
Faire en sorte que...
Quelques règles à savoir sur la manière dont fonctionne le cerveau et des règles de bon usage de son cerveau pour apprendre à mieux se concentrer.
Et le dessin est un bon support pour nous apprendre tout ça, justement. Et pour aller dans le cerveau pour comprendre comment travaillent nos neurones, les petites bulles de l'attention, se concentrer dans un monde de distraction, donc dans la collection Science Illustrée chez Odile Jacob. Vous en êtes l'auteur Jean-Philippe Lachaud. Et puis je rappelle cet ouvrage Ampère, la naissance d'une vocation, Jean-François Robin chez Rive-Neuve Éditions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans notre club. Passez un très bon week-end.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.